Bonsoir mes frères et sœurs. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Nous avions terminé l'étude la semaine dernière, ou l'exhortation plutôt, par une question que Dieu pose dans le prophète Malachie. Toutes les questions de Dieu sont importantes, sérieuses, réfléchies bien sûr et intelligentes. Elles doivent nous amener à vivre ce que l'on vient de chanter. Montre-moi, Seigneur, quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. C'est bien votre souci, ça? Eh bien, nous allons voir cela ce soir. Malachie, chapitre 1er, verset 6. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? J'ai donné comme titre à ma prédication ce soir cette partie du verset. Où est la crainte qu'on a de moi? C'est une bonne question. Nous allons pour cela prendre un texte dans le livre du Deutéronome, chapitre 17. Les rois, vous avez lu l'histoire des rois dans la Bible? Est-ce que vous avez lu l'histoire des rois? C'est impressionnant l'histoire des rois. Les rois qui ont bien commencé et très mal fini. Les rois qui ont mal commencé et bien fini. Les rois qui ont mal commencé et mal fini. Et les rois quand même qui ont bien commencé et bien fini. Il y en a quelques-uns. Dans le Deutéronome, au chapitre 17, il y a tout un enseignement sur ce que devaient faire les rois. Deutéronome, chapitre 17, verset 14. Deutéronome 17, 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Alors, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux. Qui c'est qui aurait dû le lire, ça? Salomon. Qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes. Là aussi, il aurait pu le lire. Même David aussi, parce que David, il en a eu une vingtaine. Afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas un grand amas d'argent et d'or. Alors regardez bien. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Pourquoi? Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, etc. Donc, le roi avait cette responsabilité d'écrire pour lui une copie de la loi et la lire chaque jour. Et nous aussi, qui sommes des sacrificateurs, nous devrions avoir cette responsabilité de lire la parole, de bien savoir ce que Dieu veut. Comme ça, nous restons spirituels et les choses prioritaires, eh bien, sont tout le temps là en premier. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Quand on ne fait pas les choses selon la parole de Dieu, on fait les choses à notre guise, comme on dit, ou à notre façon. Vous vous rappelez l'histoire du roi David? Alors on va aller dans le livre des Chroniques. Vous vous rappelez David? David, il a eu, quand il a été roi, qu'est-ce qu'il a eu comme idée, David? David, il a eu une excellente idée. Il a voulu ramener l'arche de Dieu à Jérusalem. Est-ce que c'était bien? C'était excellent. D'ailleurs, on va lire 1 Chronique 13. Et nous allons bien comprendre ce soir que ce ne sont pas les intentions qui comptent. Croyez-moi. 1 Chronique, chapitre 13, verset 1er. On va lire d'abord jusqu'au verset 4. C'est excellent. David tint conseil avec les chefs des milliers et de centaines, avec tous les princes, dont il rassemble tous les gens utiles. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. Donc c'était quelque chose de bien, une idée bonne, convenable, ils en ont parlé ensemble, et ils ont pris la décision de ramener l'arche. On lit la suite. David assembla tout Israël, depuis le Chicor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamas, pour faire venir de Kirjat-Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjat-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter là, de là, l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu qu'ils emportèrent à la maison d'Abinadab. Uzza et Achio conduisaient le char de jeûne. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales, des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main pour toucher l'arche. Uzza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uzza. Amen. Vous ne trouvez pas qu'elle est bizarre cette histoire? Elle est bizarre, hein? David, attention, David est un homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que c'est un homme qui, d'une manière naturelle presque, a le souci de faire l'œuvre de Dieu. Mais là, même, vous voyez, quand on est un homme de Dieu, on a intérêt à consulter la parole. Son idée était excellente. Il avait patienté des années. Et quand il est devenu roi, lui pour lui, qui dit l'arche de l'Éternel, dit pour nous la présence de Dieu. Il voulait ramener la présence de Dieu. Et il va faire, et avec tout le monde, n'a pas consulté. Tout le monde était d'accord, l'idée venait de Dieu, c'était convenable, mais la méthode n'était pas la bonne. Et s'ils avaient consulté la parole, on pourrait d'ailleurs le lire, si vous prenez des notes dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, versets 10 à 15, on voit comment il fallait porter l'arche, ou dans le livre des Nombres, chapitre 4. C'est bien de voir qu'il fallait que l'arche soit portée. Il y avait sur l'arche, il y avait des petits anneaux aux quatre coins. Quatre petits anneaux en or, avec des barres. Les petits anneaux, ça ne se voit pas beaucoup. Ça nous parle des détails. Dans la vie, vous savez, il y a des détails. On ne les voit pas des fois. Mais s'ils y sont, c'est qu'ils sont importants. Mais aujourd'hui, qui se préoccupe des détails? Pas grand monde. Et David, alors c'est pour ça que c'est important que ce soit arrivé à David. Parce que si c'est arrivé à David, laissez-moi vous dire que nous avons intérêt à être plus que sérieux avec la parole du Seigneur. S'il avait consulté, il l'a fait. Pendant trois mois, il a été malheureux. C'est certain. Vous lirez le texte. Voyez, au chapitre 15. On en va lire le verset 14 d'abord, du chapitre 13. Vous voyez, l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait, ça ne m'étonne pas. Donc ça a pris pendant 3 mois, David a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, c'est terrible. Vous faites quelque chose pour Dieu? Vous voulez ramener la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans nos églises? Et à la place de gagner des âmes, on en perd. Vous ne trouvez pas ça inquiétant? Et ça devrait nous interpeller à nous. Comment se fait-il que dans plein d'églises, à la place de gagner des âmes, on en perde? Il faut s'interroger sur tout ce que Dieu veut que l'on fasse et comment on doit le faire. Dieu honore sa parole. C'est pas compliqué. J'honorerai celui qui m'honore. J'ai souvent entendu, même au milieu de notre mouvement, ce qui compte, c'est l'intention. On fait quelque chose pour Dieu, Dieu le bénira. Non, 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 non. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas l'intention qui compte. Ce qui compte, c'est la façon dont on le fait. Il faut le faire comme Dieu nous le demande. Et si nous ne consultons pas la parole de Dieu, nous allons faire les choses n'importe comment. Aujourd'hui encore, on m'a demandé, monsieur Gou, est-ce que vous pouvez aller prier pour quelqu'un qui veut se marier, mais il veut se marier avec une jeune fille qui est dans les ténèbres. Et j'ai dit, moi non. Parce que la Bible dit de ne pas se marier avec un infidèle. Et c'est des choses qui sont vouées à l'échec. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, ne vous mettez pas avec un infidèle sous un joug étranger, etc. Si nous ne consultons pas la parole de Dieu, dans tout ce que nous avons à faire, nous ferons exactement comme le monde. C'est un véritable enseignement, cette affaire. C'est un véritable avertissement. Je le répète, David était un homme selon le cœur de Dieu. Vous vous rendez compte, c'était quand même quelqu'un... Il connaissait Dieu. C'est vraiment quelqu'un qui connaissait Dieu. C'était pas un gars léger avec les choses de Dieu. C'était un gars sérieux. Mais... quand vous regardez, alors c'est dans, je ne me rappelle plus le texte, mais il va ramener l'arche de Dieu sur des chars, vous l'avez vu avec moi. Vous savez qui c'était qui avait inventé ça? C'était les devins chez les Philistins. Et sans s'en rendre compte, David a fait comme les étrangers faisaient. Et c'est pour ça que ce jeune, qu'est-ce qu'il faisait ce jeune quand il suivait l'arche, il a soutenu l'arche pour pas qu'elle tombe du char. Qu'est-ce qu'il faisait? Il servait Dieu, oui ou non? Il servait Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'enseignement. Ouza, ça veut dire la force en plus. Ouza, oui, c'est un jeune comme tous les jeunes. Physiquement, il était fort. Ils sont là, ils font la fête, ils dansent, ils chantent, etc. Mais même si la chose était merveilleuse et convenable... la façon n'était pas bonne. Et David a été contrarié, bien sûr. Il n'a pas compris. C'est pas possible. On ramène l'arche et voilà qu'un des jeunes de l'église meurt de cette façon. 3 mois, mais 3 mois qui sont nécessaires parfois, peut-être moins. Mais vous savez, il y a des décisions à prendre. Ça vaut la peine de dire, Seigneur, je vais lire dans ta parole le conseil que tu veux me donner. Parce que Jésus... n'est pas que le sauveur, il n'est pas que le rédempteur, il n'est pas que le prince de la paix, il n'est pas que le Dieu tout-puissant, il s'appelle le conseiller. Et si nous sommes vraiment honnêtes, en lisant la parole, nous obtiendrons le conseil que Dieu veut nous donner. Même si ça prend beaucoup de temps. Il ne faut pas se précipiter. Pour David, ça a pris 3 mois. Alors le jugement, parce que quand même il faut parler un peu du jugement sur ce jeune. Pas longtemps, mais quand même il faut en parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Dieu a-t-il jugé si sévèrement ce jeune homme? Alors là, c'est le cœur un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Ça prouve qu'ils étaient inexcusables. C'est ça la vérité. Mais est-ce que c'est écrit dans le Nouveau Testament que nous aussi, nous sommes inexcusables? Est-ce que c'est écrit? Oui, c'est écrit. Dans Romains au chapitre 1er au verset 20, la Bible dit que nous sommes inexcusables. Parce que nous avons la parole de Dieu et que nous devrions savoir. Même si nous voulons honorer Dieu, je crois que si nous sommes là ce soir, c'est qu'il y a quand même dans notre cœur le désir de mieux le connaître, d'honorer Dieu. Nous sommes peut-être décidés, motivés, zélés, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut connaître la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'en toute chose, nous devons lire dans la parole. Vous avez vu le roi, non seulement il devait la lire, il devait en faire une copie. Je ne sais pas si vous écrivez. Moi ce matin j'ai lu, je ne le dis pas pour me jeter des fleurs parce que j'ai des progrès à faire, mais j'ai noté une vingtaine de versets que j'ai lus, pour moi qui sont importants pour moi dans mon ministère pastoral, dans ma vie de chrétien. Je les note parce que je me suis rendu compte qu'en notant, qu'en écrivant et qu'en relisant, on mémorisait vraiment davantage. Je le fais, pourtant j'ai plusieurs bibles, plusieurs versions, mais ça fait rien. J'écris, et vous voyez, je pourrais vous citer des versets que j'ai écrits ce matin, parce que je les ai davantage mémorisés. Je le fais parce que je ne veux pas prêcher des choses que je ne vivrai pas, je veux vraiment rechercher la volonté de Dieu, pas entendre... Moi, quand on chante « Montre-moi », quel est... comment c'est exactement « Montre-moi » Quelle est ta volonté ? Car je veux t'obéir, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quelque chose, ça exprime une véritable détermination. Car, croyez-moi, Dieu veut bénir. Si le Seigneur s'est engagé à être présent au milieu de nous, chaque fois que deux ou trois de tes enfants s'assembleraient, ou même lorsque vous vous enfermez dans votre chambre pour prier, pourquoi ? Mais c'est parce qu'il veut bénir. Mais il bénit sur cette base-là de comprendre sa volonté. Moi, je vous assure, je suis extrêmement attristé quand je vois des chrétiens qui n'en ont rien à faire de la volonté de Dieu. Ils veulent la bénédiction, ils veulent la bénédiction, ils veulent la bénédiction. Mais la bénédiction, elle suit. On devrait dire, Seigneur, mais quelle est ta volonté ? Il est dit, soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra. C'est important. C'est important, mes frères et sœurs. Si vous ne lisez pas la Bible, je ne pense pas que vous arriverez à découvrir sa volonté. C'est comme les gens qui disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Si vous dites à Dieu, augmente-nous la foi, qu'est-ce qu'il vous dira le Seigneur ? Ben, lis la Bible. Parce que la foi, elle vient d'où ? Elle vient de la parole. Quelqu'un qui dira à Dieu, Seigneur, donne-moi la foi, augmente ma foi. Si vous ne lisez pas la Bible, c'est comme si vous disiez à Dieu, mais de toute façon, non, ça ne m'intéresse pas. Etc. Combien de chrétiens reçoivent la grâce de Dieu en vain ? C'est une question, ça. Alors, j'aimerais garder le texte, parce qu'on y reviendra. Dans 2 Corinthiens, ce texte, quand même, s'est imposé quand j'ai préparé cette réunion hier. Dans 2 Corinthiens, j'ai souvent pris ce texte, mais c'est pour que nous comprenions bien que recevoir c'est merveilleux, et pourtant ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dans la parabole du semeur, il est dit qu'il y en a qui reçoivent avec joie, mais qu'il n'y a pas de racine, et dès qu'il y a une tentation, il y a une chute. C'est ce que dit Paul aux Corinthiens dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Regardez cette exhortation, elle est terrible cette exhortation, parce qu'elle devrait nous faire réfléchir. Vous rendez compte ? Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, à ne pas recevoir, comment ? Vous avez dans votre Bible ? Recevoir, c'est terrible ça, recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est-à-dire que je reçois, mais ça sert à rien. C'est terrible ça. Justement, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux gens qui font des choix. Vous voyez quand il est dit au verset 14 : ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? C'est des questions, elles sont d'une sévérité, mais elles font réfléchir. Regardez bien, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, qu'est-ce que Dieu veut ? Alors regardez ce que Dieu veut. J'habiterai, c'est le retour de l'arche ça. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Est-ce que ça vous intéresse ça ? Que le Seigneur habite au milieu de nous, dans votre vie. Qu'il marche au milieu de nous. Est-ce que ça vous intéresse que Dieu marche au milieu de nous ? Dans nos églises, dans nos cœurs, dans nos âmes. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Il y a des choses, il faut s'en séparer. Il faut s'en éloigner. Et regardez bien encore, les mots comme « et », ce sont des conjonctions, ça veut dire c'est des conséquences. « Et je vous accueillerai. » Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quand même, c'est pas merveilleux ? Vous n'êtes pas heureux de pouvoir appeler Dieu père ? Mais il y a des gens, vous savez, dernièrement, je disais tout à l'heure à des frères à côté, là, j'ai été voir un chrétien, et quand je suis rentré, il m'a dit « Ah, bonjour frère !» J'ai dit « Mais je ne peux pas, moi, vous appeler frère. » Je ne peux pas vous appeler frère. Ah, monsieur Gros, vous êtes toujours dur et sévère. Je dis, non, je ne peux pas. Et nous devons faire attention de nous comporter comme des fils et comme des filles. Regardez la suite. Quand même, ayant donc de telles promesses. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'on vient de lire. Les promesses que ça représente, qu'est-ce que ça peut provoquer que Dieu habite dans notre maison, que Dieu marche au milieu de nous, etc. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans l'amour de Dieu. C'est ça que vous avez écrit ? Dans la crainte de Dieu. L'amour de Dieu, ça suffit pas. C'est merveilleux, aimer Dieu, c'est merveilleux, bien sûr. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais, voyez, Dieu veut habiter, Dieu veut marcher, Dieu veut manifester sa grâce, nous faire faire de nouvelles expériences. Mais il faut absolument que nous ne nous conformions pas au monde. Paul dit, mais offrez vos corps comme un sacrifice. Ne vous conformez pas au siècle présent, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. David était sincère. On ne peut pas reprocher à David d'être sincère, mais je peux vous dire que la sincérité n'est pas le critère de la vérité. Il y a plein de gens qui sont sincères. Mais moi, si Dieu existe, vous inquiétez pas, je m'arrangerai après. Je demanderai pardon avec Dieu, à Dieu après, ma mort. Moi, je peux vous dire que si vous pensez demander pardon après votre mort, ça sera trop tard. C'est sur la terre qu'il faut se préparer à rencontrer Dieu. C'est écrit, Jésus l'a dit, que sachez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. David était sincère, personne ne peut reprocher à David d'être un homme compliqué. Il était, mais il manquait de connaissance. Tout David qu'il était. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et beaucoup de pasteurs ne savent même pas comment diriger une église. Croyez-moi, ils manquent de connaissances et pourtant ils sont sincères. Il faut s'appliquer. On l'a lu, on va le relire. On l'a lu la semaine dernière, ça fait rien. On va le relire quand même, peut-être pour quelqu'un qui n'était pas là. Dans le Proverbe 2, il y a plein de conditions pour comprendre la crainte. La crainte, ça, c'est pas comme ça, Seigneur, donne-moi mon... Non, il faut comprendre. Il faut comprendre les vertus qui amènent la bénédiction. C'est important, frères et sœurs. Je ne sais pas pour vous. Regardez. Proverbe 2, verset 1 à 6. On l'a lu, mais je ne pense pas que c'est une grosse erreur de le relire deux fois de suite. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, recevoir c'est une chose, garder bien sûr c'est autre chose. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, quand il y a oui, ça veut dire que mais c'est une affirmation, c'est ce que Dieu veut, c'est sûr. Si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse. David, il l'a fait. Il a été malheureux. Et pendant 3 mois, il a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est la volonté de Dieu. Et voilà que je connais un échec, un malheur dans mon royaume. Ce jeune homme qui est mort. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Mes frères et sœurs, un chrétien qui cherche Dieu, pas qui cherche la bénédiction. Je comprends que quelqu'un cherche la bénédiction. Il n'y a pas de mal à ça. Mais dans la Bible, il n'est pas dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui prient. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mes frères, il y a un fossé entre. Chercher sa présence. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui trouve, c'est quelqu'un qui a. Mais chercher, c'est la palisse, l'aurait dit, évidemment. Je cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Je cherche vraiment les choses de Dieu, la présence de Dieu. Est-ce que c'est important pour vous, la présence de Dieu? Mes frères et sœurs, il faut que nous comprenions que ramener la présence de Dieu dans l'Église, ça passe par cette obéissance au détail. Au détail. D'ailleurs, on va lire un texte qui nous prouve cela. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, c'est un très 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 beau texte qui en dit long sur des chrétiens qui ont cherché la présence de Dieu. Parce que mes frères et sœurs, si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur et que vous vous êtes fait baptiser par immersion, votre responsabilité, c'est de tout faire pour qu'ensemble, nous amenions la présence de Dieu dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23. C'est dans l'exercice des dons spirituels, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus sérieux que du parler en langue. Si donc, vous y êtes ? Lisons-le avec beaucoup de respect parce que Dieu nous l'a laissé ce texte pour qu'on puisse bien réfléchir. Si donc dans une assemblée de l'église entière, bon, une église, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Vous vous rendez compte ? Mais si tous prophétisent, alors si tous prophétisent, ça ne veut pas dire que tous les chrétiens exercent un don spirituel. Ça veut dire que tous ont la pensée de Dieu. C'est beau dans une église quand tous les chrétiens ont la pensée du Seigneur. Comprenez bien que dans une église, tous les chrétiens ne peuvent pas prophétiser. Mais tous prophétisent, ça veut dire que tous parlent de la part de Dieu. Prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Là. Dans une église, c'est beau quand tous les chrétiens sont spirituels. Vous ne croyez pas ? Et que lorsqu'ils parlent, eh bien, ils parlent des choses... Ils font du bien. Si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant, regardez bien, ou un simple auditeur, voyez, un inconverti, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Vous pouvez dire amen. C'est un païen, un simple auditeur, un inconverti, un non-croyant. Qu'est-ce qui se passe ? La présence de Dieu fait que c'est lui qui publie que Dieu est au milieu de vous. Ça vous intéresse pas, ça ? C'est pas nous qui chantons en boucle « Dieu est au milieu de nous, Jésus est au milieu de nous, Jésus est au milieu de nous ». Non, c'est le pécheur, à cause de la présence de Dieu, je sais pas si vous vous rendez compte, ça ne vous intéresse pas ? Dimanche, il y a des baptêmes, vous n'aimeriez pas que les publicains, les pécheurs, les auditeurs disent eux-mêmes « Mais Dieu est au milieu d'eux ». Vous pouvez lire le texte comme vous voulez, ça vous prouve bien que quand Dieu veut convaincre de péché, il convainc de péché. C'est Dieu qui convainc de péché. C'est le Saint-Esprit. Et il le fait lorsque nous nous appliquons à ramener la présence de Dieu dans l'Église et en nous occupant des détails. Et si vous regardez, alors c'est dans les chroniques, on y revient, regardez bien, bon, David, au chapitre 15, c'est intéressant de méditer ces chapitres, moi vous savez, ça m'a pris du temps, mais je vous assure que ça vaut la peine. Regardez, bon, 3 mois se sont passés, qu'est-ce qu'il a dû faire David, d'après vous ? Il a râlé pendant 3 mois ? Ou après cette profonde tristesse, qu'est-ce qu'il a dû faire, d'après vous ? Eh bien, il a cherché Dieu. Il a dû dire, amenez-moi les rouleaux de la loi et je veux absolument voir comment il faut porter l'arche. C'est ce que nous devrions faire, je veux absolument savoir comment il faut ramener la présence de Dieu dans l'Église. Quelle est ma place dans l'Église ? Est-ce que j'attriste le Saint-Esprit ? Est-ce que j'éteins le Saint-Esprit, etc. Ou est-ce que je suis un instrument de bénédiction pour l'Église ? 1 Chronique chapitre 15, David se bâtit des maisons dans la cité de David. Bon, oui, d'un côté il s'occupe des choses temporelles. Est-ce qu'il faut s'occuper des choses temporelles ? Mais bien sûr, vous voyez, c'est ça qui est beau. Vous voyez, d'un côté, il fait ce qu'il a à faire au niveau temporel. Et d'un autre, il prépare une place à l'arche de Dieu. Vous voyez, d'un côté, il fait ce qu'il a à faire parce que bon, il est roi, il s'occupe, mais il construit une maison ou plusieurs. Et d'un autre, en même temps, vous voyez, le soir peut-être, quand il rentrait chez lui à la place de regarder la télé, eh bien, il lisait dans le livre de la loi, les rois devaient le faire. Et un jour, il a dû lire, regardez. Alors David dit, l'arche de Dieu, verset 2, ne doit être portée que par les Lévites. Il a lu, c'est sûr. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Alors David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée, au verset 12. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille de Lévite, sanctifiez-vous. Il a lu, il a compris. Vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. Vous voyez, il a compris. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, notre Dieu nous a frappés. car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des lévites portèrent l'arche de Dieu, comment ? Sur leurs épaules, avec des barres. Ah, ces petits anneaux, on ne les avait pas vus. Mais comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Verset, on va lire le verset 26. Regardez bien ce verset qui nous fait penser à des versets du livre des Actes. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Alléluia. Et la suite, bien sûr, nous prouve que le Seigneur était là, prêt à bénir. Les sacrificateurs devaient se sanctifier. Est-ce que nous devons nous sanctifier, nous ? Est-ce que c'est écrit que ton nom soit sanctifié ? Est-ce que nous voulons voir la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans l'Église ? La présence de Dieu est liée. Ça, c'est même pas la peine d'en parler. C'est sûr. Mais que Dieu soit présent, c'est une chose. Que Dieu se manifeste, ça n'est une autre. Le Seigneur, il est là. Il est partout, de toute façon. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et nous sommes, nous, les chrétiens, dans la nouvelle alliance, depuis que Jésus-Christ a donné sa vie au calvaire, et que nous devenons des chrétiens, nous sommes des sacrificateurs. Tous, c'est écrit, 1 Pierre 2, 9, vous êtes une race élue, un sacerdoce. Un sacerdoce, c'est ça. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et dans l'Apocalypse 1, verset 6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs, c'était les descendants d'Aaron. Ils étaient sacrificateurs par hérédité, comme on l'appelle. Dans le Nouveau Testament, nous le sommes par la nouvelle naissance. Dès qu'un homme, un pécheur, se convertit et qu'il naît de nouveau, il devient sacrificateur. Alors, est-ce que tous les croyants sont sacrificateurs ? Normalement, oui. Si un chrétien n'est pas né de nouveau, non, ce n'est pas un sacrificateur. Alors, qu'est-ce que nous voulons, mes frères et sœurs ? Nous concluons cette réunion. Nous avons chanté « Montre-moi quelle est ta volonté ». Je ne sais pas si vous êtes sérieux avec Dieu. Vous avez chanté tout à l'heure, d'accord ? Je crois que le Seigneur inspire les chants aussi. Les chants sont un moyen de grâce, peut-être pas comme la parole, mais quand même, les chants, puisque la Bible parle de s'entretenir par des cantiques spirituels, les chants sont un moyen de grâce pour découvrir la volonté de Dieu, pour préparer les cœurs. Montre-moi, Seigneur, quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Oui, tu m'as sauvé, je fais partie d'un corps, d'une église. Il faut que je sache comment ramener ta présence dans l'église. Je suis un sacrificateur par la nouvelle naissance. Écoutez, faites-moi confiance. Vous savez que c'est vrai de toute façon. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on veut voir ? Est-ce qu'on veut juste être béni ? Parce que quand même, la bénédiction, c'est super important. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un plus important que la bénédiction que Dieu nous donne ? Est-ce que nous ne voulons pas voir la gloire de Dieu dans l'Église ? Alors, j'aimerais lire avec vous d'un peu plus loin, parce que quand même, hier, en préparant, j'avais ce verset à cœur dans Ésaïe. Je pense que ça va faire du bien à quelqu'un. Je ne suis certain que quelqu'un a besoin de ce verset, parce que vraiment, j'ai été interpellé hier. Dans Ésaïe, au chapitre 60, on va lire les deux premiers versets. Ça correspond à la gloire de Dieu dans l'Église. Je voudrais que vous compreniez, mes frères et sœurs, que c'est la volonté de Dieu, c'est de manifester sa gloire. On le voit dans l'Éphésiens, il nous a sauvés pour célébrer sa gloire, pas pour qu'on aille en enfer. Bien sûr que Dieu veut pas qu'on aille en enfer, mais il nous a sauvés pour célébrer sa gloire. Ésaïe 50, 60, verset 1, 2. Regardez le nombre de fois, il dit « toi, sur toi ». Donc Dieu s'adresse aux enfants. Lève-toi. Vous voyez, lève-toi, c'est toujours quelqu'un qui se positionne pour Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Regardez, ça correspond bien à ce qu'on vit. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Pardon. Et l'obscurité, les peuples. C'est évident, les ténèbres couvrent la terre. Mais on a l'impression que Dieu nous dit, mais c'est pas grave. Sur toi, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Oui, les ténèbres sont là, oui, les temps sont difficiles, oui, c'est compliqué. Mais mes frères et sœurs, sur toi, sur une église, sur une famille, sur un couple, sur une maison, la gloire de Dieu peut se manifester. La pluie de l'arrière-saison, c'est pas des blagues. Jésus a parlé de la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie qui vient avant la grande moisson, il en parle. Je vais terminer peut-être avec ce texte dans Joël. Oui, on va regarder ce dernier texte, parce que quand même, il y en a plusieurs, mais je vois que le retourne. Regardez, avec moi. Dans le prophète Joël, Joël c'est après les grands prophètes, on est dans Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Vous voyez, ça vous aide. Non ? Daniel, Osée, Joël. Regardez Joël. Non mais ça vaut vraiment la peine. Notez-le si vous n'arrivez pas à le trouver. Notez-le et regardez comment Dieu montre les choses pour changer les choses. Dieu ne nous montre pas les choses pour nous culpabiliser. Bien sûr que c'est pas toujours facile, mais quand même, c'est beau quand Dieu nous montre ce qui va pas. Et là, il parle de repentance. Il dit, mais repentez-vous, changez de cœur, déchirez vos vêtements, etc. Ça indique quelqu'un qui a vraiment envie de changer, il se rend compte qu'il est mondain, il se rend compte qu'il est superficiel, il se rend compte qu'il est charnel, etc. Il dit, non, je veux changer. Il y a des gens, vous rendez compte, pour un rien, ils vont manquer le culte. Est-ce que le culte, quand même, c'est pas quelque chose d'un rendez-vous avec Dieu? Vous voyez, il y a des choses, mais par contre, pour après, moi, il y a des gens qui me l'ont dit. On a la santé pour aller au restaurant, et on n'a pas une heure le soir pour aller à la réunion de prière. Mais les gens me l'ont dit. J'ai dit, mais c'est bien, au moins vous avez l'honnêteté de me le dire. Et je ne veux pas, moi, faire des sermons ou de la morale. Dieu bénit pas ça. Mais quand même, je crois qu'il y a un prix à payer. Et regardez, dans ce texte, où il y a une réaction suite à une parole de repentance. Alors, on va lire ce qui nous intéresse. Joël 2, voyez, verset 12. Maintenant, on dit maintenant dans la Bible, ça veut dire, mais on peut toujours revenir à Dieu. C'est beau ça quand même. Maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Il ne faut pas revenir à Dieu pendant les réunions. Il faut revenir à Dieu tout le temps. Alors, voyez, dès verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Oui, parce qu'on peut faire semblant de se repentir. Et revenez à l'Éternel. Verset 18, ils l'ont fait. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, il épargne son peuple. Regardez maintenant, regardez le résultat. On va lire verset 21. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse. Il y avait de quoi craindre, hein, vu l'état dans lequel ils étaient, il y avait de quoi s'inquiéter. Mais là, tout d'un coup, ça change. Ne crains pas. Sois dans l'allégresse, réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Vous aimeriez que Dieu fasse de grandes choses avant que Jésus revienne chercher l'Église? Croyez-moi, il le veut, plus que vous. Car les plaines du désert reverdiront. Ça, c'est bon signe, ça. Les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Bon, nous, on est concernés par l'arrière. Comme autrefois, les aires se rempliront de blé, les cuves regorgeront de moût et d'huile. Et regardez bien le verset 25. Non, mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Vraiment, il n'y a que lui. Je vous remplacerai les années. C'est pas beau ça? Dieu pourrait nous dire, ben vous avez perdu tout ça, ben tant pis pour vous. Non, quelle bonté. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Alors qu'est-ce que c'est qui nous a mangé? La sauterelle. Le gélec, l'hanneton, vous savez, le asile, le grillon, c'est des mots qu'on n'utilise pas. Nous, on utilise le hanneton, le grillon. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Un grillon, c'est pas, ça fait pas, ça vous fait peur un grillon? Un hanneton? Est-ce que vous avez peur d'un hanneton et d'un grillon? Les petites choses, mes frères et sœurs. Les petites choses, un peu de levain fait lever. Quatre anneaux sur une arche. Qui les voit de loin voit rien. Mais ils y étaient. Mes frères et sœurs, Dieu ne change pas. Dans une église, si nous nous préoccupons de sanctifier son nom, je peux vous dire que nous verrons la gloire de Dieu. Heureux l'homme, dira le proverbe 28, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, il est évident, c'est une logique implacable, nous endurcissons notre cœur. Mes frères et sœurs, Dieu, il veut manifester sa gloire, et c'est pas l'intention. Je vous le dis, hein. Faites attention quand vous êtes dans une église, si un jour vous voulez changer une église, vous avez l'intention, c'est pas grave. C'est l'intention qui, on peut mettre des inconvertis. Moi, quand je suis arrivé ici, on me l'a dit. On peut pas mettre des inconvertis, on va les gagner sur l'estrade. Ah, je dis, mais vous connaissez la Bible. Celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme sauveur, son père, c'est le diable. Et c'était pour les, voyez, c'est ça, on n'a pas lu la parole. Dans une église, tout doit être fait pour que le nom du Seigneur soit sanctifié. Alléluia. Et les rois devaient lire chaque jour, et même l'écrire. Alors, vous pouvez le faire. Qui c'est qui me racontait l'autre jour qu'il y a une Vietnamienne, quand elle est venue en France, elle a écrit, quand elle a été tellement bénie, elle a écrit toute la Bible à la main. C'est pas beau, ça? Elle n'avait pas d'argent pour l'acheter. Au début, elle ne connaissait personne. Elle a écrit la Bible à la main. Toute la Bible à la main. Le pasteur, il en a pleuré qui m'a dit ça. Je crois qu'on pourrait bénir Dieu d'avoir la Bible. Ce week-end, là, nous étions dans les Cévennes et nous hébergions avec les jeunes d'Aubagne et de Toulouse dans un centre, en fin de compte, qui n'était qu'à 10 km du musée du désert. Et à un moment, il nous a parlé de la façon dont la Bible avait été traduite, bien sûr, imprimée. Et au début, vous savez combien ça valait en francs actuels d'aujourd'hui, enfin en euros actuels, une Bible, ça correspondrait aujourd'hui, s'il fallait acheter la Bible, 14 000 euros. 14 000 euros. Les Bibles valaient à l'époque, ça correspondait à ça. Est-ce que vous l'achèteriez quand même? Moi, je peux vous dire que oui. Je peux vous le dire. On n'est pas capable de faire un prêt pour une voiture. Mes frères, il y en a un qui est plus intéressé que nous à manifester sa gloire. Croyez-moi. Dieu veut se glorifier et envoyer la pluie de l'arrière-saison. Et s'y commencer dans cette église. Est-ce que Dieu peut commencer dans notre assemblée? À manifester sa gloire sur toi, ma gloire apparaît, mais nous devons vraiment nous appliquer, mes frères et sœurs. Nous sommes des sacrificateurs. Et l'arche de Dieu, on ne la porte pas n'importe comment. Et si nous sommes dans le péché, nous empêchons la gloire de Dieu de se manifester. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de péché. Alors appliquons-nous, mes frères et sœurs, à vivre dans la sainteté. Vous êtes d'accord ? On termine en priant, on lui demande de l'aide. Il nous aidera, le Seigneur. Hein? Nous t'avons chanté, Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Au travers de ce que nous avons partagé, nous avons réalisé que ce ne sont pas les intentions qui comptent, c'est l'obéissance à ta parole. Et nous te prions, Seigneur, pour que dans cette église, puisque tu nous as placés dans cette assemblée, tout soit fait pour que ta présence se manifeste dans l'église. Nous voulons ne pas toucher à ce qui est impur, Seigneur. Rien. Vraiment, Seigneur, comme nous l'avons lu, nous savons qu'il y a plein de choses impures qui peuvent rentrer dans le temple de notre corps. Et nous refusons ces choses, Seigneur. Afin que dimanche après-midi, ou jeudi soir, à la prochaine réunion, dimanche, samedi soir à la jeunesse, le publicain, le païen, l'auditeur, puisse se frapper la poitrine et confesser que tu es réellement au milieu de nous. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Que ton esprit puisse convaincre de péché. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons accepté des choses du monde qui ont souillé le temple de notre esprit. Nous te demandons ton aide, Seigneur. Nous le croyons et nous nous repentons si cela est nécessaire. Tu vois dans quel état nous sommes. Nous choisissons, Seigneur, de recevoir cette aide qui nous permettra de voir ta présence se manifester. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.